Entretien spirituel, une émission proposée par le frère Jean-François de l'abbaye de Belloc.
Chers amis de Radio La Pourdive, alors que je vous parle, il fait chaud, un soleil magnifique, pas un souffle d'air. Or, dimanche, quand nous écouterons l'Évangile, eh bien, il y aura ce fameux épisode d'une tempête. Nous serons plongés dans l'élément marin qui est en pleine effervescence. Et la scène est dramatique, puisque les flots sont déchaînés. Mais que nous signifie donc une mer houleuse? Avez-vous pensé un jour à ce que pouvait imaginer, penser, symboliser une mer houleuse? Pour le marin, une mer houleuse est l'image de l'adversité, parce que il est en mer, dans une embarcation, et qui est fragile et qui est ballottée à gauche et à droite, et même s'il a le pied marin, eh bien, il peut se faire renverser et c'est la mort. Donc, dès qu'on parle d'une mer houleuse, eh bien, il y a cette problématique de la vie ou de la mort qui se pose au cœur même de la création. Et alors, qui donc a fixé à la mer cette violence? Qui donc a pu dire à la mer, pourquoi es-tu, j'allais dire, dans un déchaînement, mais diabolique, presque, diabolique? C'est insensé. Que se passe-t-il donc dans tes flots, mer si puissante, orgueilleuse, et qui peut engouffrer dans les bas-fonds tant de vies humaines, tant de marins, tant de capitaines qui sont morts au loin? Oui, la mer est symbole d'un lieu de perdition. C'est aussi un symbole où la mer peut être un tombeau pour l'homme. Et voilà, nous voilà donc confrontés à cette question-là. La tempête miraculeuse, car il y a eu tempête, a été apaisée par Jésus qui a maîtrisé les flots. Et au lieu de savourer le calme retrouvé, nous voyons les apôtres qui sont dans une très grande barque, puisqu'ils étaient tous dans la même barque, donc au moins 13 personnes avec Jésus, dans une barque, qui ils auraient pu apprécier ce moment, enfin, voilà le beau temps retrouvé, enfin la mer est apaisée, enfin nous sommes en vie. Eh bien non, nous les retrouvons complètement épouvantés. Et alors, on se pose la question, qu'est-ce qui le secoue encore, ces braves marins, ces braves apôtres, qui sont certains sont de grands pêcheurs, des pêcheurs maritimes, hein, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'ils ne réalisent pas la chance d'avoir été épargnés d'un naufrage? Qu'est-ce qui les interroge? Eh bien, ce qui les interroge, c'est la personne même de Jésus. Parce que dans la barque où ils se trouvaient, en train de traverser le lac de Galilée, les vents et les vagues auraient pu faire craindre un véritable naufrage, avec tous leurs rêves, tous leurs projets de vie. Allez, tout le monde à l'eau et en avant. Or, il n'y en a qu'un seul qui était au calme, c'était Jésus. Et il était à l'arrière de la barque. On disait même, rapporte Marc, qu'il dormait, alors que les puissances sont déchaînées. Et les disciples sont effrayés, au point qu'ils crient vers lui, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien !» Cette parole des apôtres est véritablement humaine. Et bien, par cette parole-là, nous voyons bien que les évangiles sont profondément historiques parce qu'ils reprennent nos propres mots quand nous sommes en détresse. « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Qui ne l'a pas dit cela dans sa vie? Donc, Jésus est là. Et il est interpellé par nous qui avons peur. Et lui, il est resté silencieux. Et du coup, on peut le relancer. « Tu ne fais rien pour moi ?» Quand nous avons l'impression de couler, parce que l'amour ou le projet dans lequel nous avons mis de grands espoirs s'effondre, ou quand nous sommes à la merci des vagues insistantes de l'angoisse, les flots submergents, les flots de la dépression, nous sommes perdus au milieu de la mer. Il n'y a ni route, ni port, il n'y a que des flots tumultueux. Dans bien des moments de notre existence, nous avons aussi ces confrontations avec tant de forces du mal. Alors, dans ces situations-là et tant d'autres, nous nous sentons aussi étouffés par la peur. Et comme les disciples, nous risquons de perdre vue la chose la plus importante, la vie. Et surtout, aller vers Jésus, l'interpeller, le réveiller, lui qui dort. N'ayons pas peur de nous éveiller pour aller réveiller Jésus. Parce que pour être disciple de Jésus, il ne suffit pas de croire simplement que Dieu est là, qu'une puissance extraordinaire existe, mais il faut se mettre en chemin vers lui. Il faut élever la voix vers lui. Il faut crier vers lui. Oui, entendez bien cela. Il faut crier vers Jésus. La prière, c'est un cri. Seigneur, sauve-moi. Et très souvent, dans le chant des psaumes que nous chantons régulièrement, il y a ce cri constamment. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. C'est la prière. Et la prière est un cri. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons nous demander, quels sont les vents qui s'abattent sur ma vie? Quelles sont les vagues qui entravent ma navigation et qui mettent en danger ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie conjugale, ma vie amicale, même ma vie psychique et surtout ma vie spirituelle? Disons-nous à Jésus, Seigneur, sauve-nous. Disons-le, oui, disons-le, mais dites-le, j'aimerais vous entendre, et dites-le à haute voix. Il ne faut pas avoir peur de crier sa prière. C'est la force des personnes humbles, c'est qu'ils n'ont pas peur de crier leur prière. Et Jésus prie avec ses disciples. Et il est prié par ses disciples de calmer le vent et les vagues. Et il leur pose alors une question qui nous concerne tous, vous comme moi. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la confiance en vous? Voilà la question que Jésus nous pose. Et les disciples se sont fait prendre par la peur, parce qu'ils étaient restés à fixer les vagues qui s'écrasaient contre eux plutôt qu'à regarder vers Jésus. Eh bien, la peur nous conduit à regarder les difficultés, les mauvais problèmes, plutôt que de regarder le Seigneur qui souvent dort. Et pour nous aussi, il en va ainsi. Ne perdons pas le contact avec Jésus. Demandons aujourd'hui la grâce d'une foi qui ne se lasse pas de rechercher le Seigneur, de frapper à la porte du cœur de Jésus. Et surtout, ne restons pas dans un état de léthargie, voyez, un état où on n'est plus qu'un conglomérat de choses auxquelles il faut croire, etc. Et on perd cette confiance. Il faut que nous sortions de notre confort, voyez, d'un paganisme vulgaire. Il faut éviter le danger suprême de se laisser submerger par cela, pour rencontrer Jésus, pour appeler Jésus, et que notre appel soit un appel à la justice, à la fraternité et à la proximité avec chacun de nous et avec le Seigneur. À très bientôt.